Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
On va vous faire du sur-mesure aujourd'hui du Made in America avec un invité qui vient d'Israël en passant par l'Éthiopie. Il s'appelle Gili Yalo. Il chantera deux titres dans la seconde partie de l'émission. Une émission qui s'appelle Musique du Monde, souviens-toi. Et qui démarre avec du Lana Del Rey. Et c'est la première fois, donc on a un peu d'émotion. On a le museau qui rougit, les mains moites, tout ça. Et c'est Sofian Fanen qui régale avec une dégringolade de nouveautés. Prêt ? Partez !
Beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all, but nobody wanted. To feel just like it used to, when baby I was doing nothing the most of all.
Du tout nouvel album de Lana Del Rey choisi par Sofian Fanen. Lana Del Rey, je ne serais
vous l'avez pas vu venir.
En plus,
j'aime vous surprendre, Laurence.
Oui, c'est ça. C'est un album qui s'appelle Norman Fucking Rockwell. Pour ceux qui ne savent pas, Norman Rockwell était un dessinateur qui a bien croqué l'Amérique des années 20 jusqu'aux années 50. Elle est assez explicite hein, sur certains de ses textes, cette petite Del Rey.
Oui, oui. Alors c'est son disque de n'a peut-être plus rien à faire de rien en fait. C'est vraiment c'est un disque très libéré et très libérateur. C'est une vraie surprise pour moi dans l'absolu parce que Lana Del Rey, je l'ai bien aimé au début. Je trouvais le personnage et sa voix pour le coup, c'est une super chanteuse, etc. Mais au début, ça me plaisait bien. Et puis les albums, je les ai traversés sans que ça me passionne du tout. Et celui-là, très professionnellement, je l'ai écouté parce que c'est mon travail et vraiment, je suis tombé dedans. Très beau disque, très. Alors, c'est bizarre de dire ça après ce morceau qui en fait quand même des caisses, mais très économe à l'échelle de Lana Del Rey. C'est un disque avec voilà, des cordes, de belles voix. Il n'y a pas non plus une surproduction. Sur ses albums précédents, elle avait tendance à courir après quelque chose qui était quelque part elle, mais pas complètement elle. C'est-à-dire, elle allait dans des couleurs un peu hip-hop, ou alors elle a essayé des couleurs un peu rock'n'roll, mais un peu dures. Là, en fait, elle est Lana Del Rey, c'est-à-dire, tout ce qui la passionne, c'est la musique américaine des années 60 produite vers Los Angeles. C'est-à-dire Love, les Doors, Dennis Wilson, elle le cite directement dans ce morceau de Dennis Wilson juste avant qu'il meure, avec cet album Pacific Ocean Blue. C'est ce mythe de Laurel Canyon, Joni Mitchell, etc. C'est son unique passion, en fait. Elle ne parle que de ça depuis le début. Et là, sur ce disque-là, elle ne fait pas semblant. C'est un disque qui aurait pu être enregistré à Laurel Canyon en 68. Enfin, c'est vraiment un beau disque du début à la fin. Et effectivement, les paroles parlent beaucoup d'amour, mais d'amour charnel. C'est assez...
You fuck me well, etc. Oui, oui, non,
dès le début du disque, voilà. C'est tu m'as très bien fait l'amour, mon grand.
Ah non, c'est pas fait l'amour.
Je suis prêt à t'aimer. Oui, mais je suis poli pour vos auditeurs, Laurence.
C'est gentil. RFI, 35 millions d'auditeurs. Personne ne sait ce que ce mot veut dire. On passe au suivant, c'est le groupe Velvet Negroni. Sofia Fanen, je sais pourquoi vous avez mal au dos maintenant. Vous avez dansé tout l'été sur Velvet Negroni. Le titre du morceau, c'est Wine Green et l'album Neon Brown. Maintenant, expliquez-vous.
C'est un super tube, non?
Oh bah oui.
Incroyable tube, ce morceau.
On a envie. Mais je préférais Lana Del Rey, You Fuck Me So. Excusez-moi, je bloque là-dessus.
C'est un petit peu moins sexuel, Velvet Negroni, même si quand même
et
la voix est sensuelle. Ouais. Encore une bonne surprise, son album précédent était...
Je vous sens heureux.
Mais oui, je suis heureux, j'aime bien les surprises.
Je Jubile.
Parce que son album précédent était beau, mais laissait pas entrevoir cette joie de vivre dans cet album-là qui s'appelle Neon Brown. Velvet Negroni, c'est un jeune homme qui, sur son temps libre, coupe du bois. C'est à moitié son métier.
Avec sa petite hache.
Voilà.
Et il a
grandi dans le Minnesota. C'est un garçon qui a grandi dans une famille assez religieuse, qui l'a beaucoup protégé du diable de la pop musique et qui l'a mis devant un piano à partir de 5 ans, tous les jours, qui l'a beaucoup fait souffrir visiblement, mais du coup, il joue très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Kadia Bonnet ou comme d'autres musiciens, c'est une figure qui revient assez régulièrement, des gens qui ont été comme ça surprotégés de l'environnement qui les entourait, c'est-à-dire de la culture populaire, qui ont pu en souffrir, mais du coup, quand ils ont été autonomes, quand ils se sont libérés de ce carcan parental, ils se sont jetés sur tout ce qu'ils ont trouvé, sur Maria Carey, tous les trucs les plus dégoulinants possibles, mais ont une vision de la musique populaire extrêmement dégagée du bruit médiatique, de ce qu'est un tube, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'intéressent juste à la musique, et si le morceau est bien, le morceau est bien, et point. Et du coup, il y a une vision extrêmement libre de ça, et cet album de Velvet Negroni, c'est ça, c'est-à-dire c'est en même temps extrêmement brillant dans la composition, les productions ça explose comme des petites bulles de champagne de partout, c'est vraiment hyper riche, et et en même temps, c'est extrêmement premier degré sur la recherche de l'efficacité tube, etc. Ça marche vraiment bien, et y a un petit côté, pas forcément dans ce morceau-là, mais dans le reste du disque, il y a un petit côté Terence Trent D'Arby, Lenny Kravitz, assumé. C'est un disque troublant, qui en plus sort chez 4AD. Qui n'est pas une maison
ça rappelle les Cocteau Twins,
colorée ça, et oui. Bondissante, forcément. Oui, oui. Et voilà, Velvet Negroni, ce sera leur chanteur R&B coloré et bondissant, et ça fait du bien à tout le monde.
Prochain titre, il sera posthume, c'est Res G and the African Space Program. Pardon.
Je vous sens moqueuse.
Oh, pas du tout. C'est pas du tout l'esprit de l'émission. Ras J and the African Space Program, Sofian Fanon.
Oui, Ras J, qui, alias Gregory Shorter Jr., qui nous a quittés cet été. Malheureusement, à 39 ans, son cœur n'a pas tenu plus loin. Et c'est une perte dans le sens où c'était un garçon méconnu. C'est pas un grand nom. Ce qu'on dit Ras J comme ça, les gens ne le connaissent pas forcément. Mais c'est quelqu'un qui a été, pendant une dizaine d'années, omniprésent dans la scène de Los Angeles, autour de Flying Lotus, Thundercat, Kamasi Washington, même aussi, dans une moindre mesure, toute la scène Brainfeeder, etc. C'est-à-dire des gens qui sont entre le jazz, la musique électronique, le hip-hop. Et en fait, Ras J, c'était un peu leur fournisseur de matériel déjà, parce qu'il a enregistré 24 albums, des mixtapes, des maxis. Il a produit des heures et des heures et des heures. Et je pense qu'on en a encore. Ils peuvent en publier pendant des mois et des années encore, parce que c'est quelqu'un qui abreuvait tout ce groupe de musique musiques extrêmement diverses. Et donc c'était une pièce centrale. Et pour le coup, c'est une grande perte pour la musique, quelqu'un comme ça d'un petit peu en retrait. Donc c'est l'occasion d'en parler et de présenter ce African Space Program, qui est un maxi qui est sorti en début d'année, je crois, et qui est le versant afrofuturisme de Ras Jay, c'est-à-dire cette longue continuité musicale, même qui part de Sun Ra, voire même d'avant encore, de connexion entre la culture afro-américaine et ce mythe d'un ailleurs pour fuir le racisme ambiant, hein, très clairement, c'est-à-dire partons vivre sur une autre planète, parce que la nôtre, elle est vraiment pourrie, et on veut pas de nous ici, donc on va aller se construire un avenir meilleur plus loin. Ce Ras Jay and the African Space Program, qui était lui tout seul, hein, y a pas d'autres personnes dans le groupe, était sa petite pierre à ce bel édifice intellectuel, qui est aussi littéraire, etc. Il y a beaucoup de livres sur tout ça. Et voilà, ça vaut le coup de se replonger dans Ras Jay. Maintenant, il va falloir que quelqu'un se mette à rassembler l'ensemble de son œuvre et faire le tri et présenter ça au monde, malheureusement, après sa mort.
Ça vous tente pas, Sofian ?
Eh bien, pourquoi pas ?
Écoutez, vous pourriez être le ramasseur
ça me ferait plaisir.
De ce Dance of the Cosmos. Titre suivant.
Because you ain't my comrade, you have not felt the rage of watching your people beaten, raped, hung, your outrage shouted down by oppressors claiming victimhood, and having no recourse except silence. Feel your skin grow tight around your body, trying to contain anger that has become a family heirloom, generation to generation, watching from the belly button window, born understanding that they will not be understood. They will be underestimated, underprivileged, underserved. The anger turns itself inward, pushing from within. Fight or flight. I'd rather you called me nigger. Say what you mean. I live as an accoutrement to your life. Entertainment, anthropological study, a paragraph in a history book. You are Atlas, contemplating shrugging. My shoulders are heavy, but you claim the burden. Don't call me nigga. You ain't from where I'm from. I was raised at the intersection of Frederick Douglass and Marcus Garvey. The village warned the children to be careful of what they said in front of white folks. So we became bicolloquial. Ambrosia and Kool-Aid, high rises, low rents, drinking champagne out of plastic cups, whispering the ideals of black nationalists while mouthing the national anthem. Oh, say, can you see? You can't see me. Been living beside you for hundreds of years, building communities brick by brick, but you can't hear me. Been here before Isabella commissioned it. We kings, we queens, among cave dwellers. You don't know me. You can't call me nigga because you don't believe in black angels. Haven't accepted the fact that a blue-eyed, blonde-haired Jesus would have died in the desert. You haven't accepted the fact that black represents the presence of all things. Black is everything. The spirit of God is black. You can't call me nigga because the word is code for brother, and we ain't kin like that. Your appropriation of my culture has not been by my permission. Don't call me nigga, because my humanity is more important than your swag. Because Dylan Roof was not a lone gunman. He walked into that church on a foundation laid by white supremacists. He will be tried by a system that perpetuates white supremacy. His actions were motivated by propaganda promoted by pop culture. You can't call me nigga because five-year-olds should never have to play dead on church floors. My niggas understand a part of me that rose up from the ashes of the antebellum South, but still feel the rawness of chains. My niggas understand that racism is a white man's madness. Because the South lost the war, because of the Gen of Six, Nia Wilson, Mike Brown, Trayvon Martin, gentrification, the achievement gap, mass incarceration, police brutality, because the branches of our government bear strange fruit. Because, fuck you. White people can't call me nigga because they don't know who they are. To be a nigga,
to not be a nigga? That is the question. It's a conversation that white folks simply are not invited to.
Quelle voix ! Elle s'appelle Tenesha de Worsmith, elle est californienne, elle est poète, elle mélange le hip-hop et la poésie et elle dit « Why white folks can't call me niggers ?» Pourquoi les blancs ne peuvent pas m'appeler négresse ?
Ouais, c'est un sacré disque, c'est un sacré morceau, c'est une sacrée chanteuse, une sacrée slameuse. Parolière, écrivaine, c'est vraiment un morceau qui essaie d'expliquer, voilà, c'est pas votre affaire. Enfin, vous n'avez pas à m'appeler négresse, nigger. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Si nous, entre noirs, on veut s'appeler comme ça, c'est notre vie parce que on partage une culture, une histoire, un passé, des ennuis et des joies. Mais par contre, c'est pas aux blancs de nous appeler comme ça parce que quand les blancs le disent, c'est pas cool. Sur l'ensemble du disque, alors c'est un disque musicalement assez incroyable. Production d'un Italien qui s'appelle DJ Calab, qui avait sorti un super album l'année dernière. Déjà, il y a une petite communauté en Italie de musiciens qui travaillent à frontière de l'électronique et de samples, et d'ailleurs de vrais instruments rejoués, plutôt côté Afrique de l'Ouest notamment. Et lui a produit ce disque-là qui se reconnecte complètement avec la scène spoken word des années 70, les grandes traditions avant que le rap avale tout. Elle se reconnecte vraiment avec tout ça, d'ailleurs, qui était à l'époque à la jonction directe avec les poètes. C'était vraiment les poètes qui venaient proclamer leur poésie sur de la musique, et c'est notamment ce qui a nourri ce qui est devenu le rap après avec d'autres influences. Elle reprend complètement ce côté-là. C'est quelqu'un qui vient de la littérature, c'est quelqu'un, elle raconte, moi j'étais la gamine qui lit, et les prostituées dans mon quartier me protégeaient parce que j'étais la gamine qui lit, et elle disait non mais elle, tu touches pas à elle parce que c'est la gamine qui lit en fait. Elle disait j'étais la fierté de mon quartier, et c'est ce qui m'a porté. Je trouve ça assez, assez beau comme histoire. Elle raconte des choses très dures dans ce disque, le viol de sa mère, bien entendu énormément d'histoires de racisme. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire qui a grandi dans un quartier pauvre d'Oakland, donc côte ouest américaine. Après, elle a beaucoup vécu à New York avant de revenir à San Francisco. Il n'y a pas de faux semblants, les mots sont assez durs, et c'est un disque assez incroyable, et qui en plus est porté par une musique vraiment super étonnante. On le découvre morceau après morceau. C'est vraiment une très grande découverte, je trouve, de cette rentrée 2019.
Elle s'appelle Tenesha de Worsmith et l'album s'appelle Peacocks and Other Savage Beasts. On va terminer avec Vilma Vritra. Alors ça, c'est, je ne connais pas du tout, donc je vous laisse en parler. Ce sera le dernier choix de Sofian Fanon dans cette émission.
Ça a été un surgissement pas du tout prévu de ces deux garçons. Vilma Vritra, c'est Pyramide Vritra, qui est le garçon le moins connu de Hot Future, c'est-à-dire le groupe qui a donné notamment Frank Ocean, The Internet, énormément de projets musicaux intéressants, mais lui c'était un peu l'homme de l'ombre, et Vilma Archer, que pas très connu non plus, qui est une sorte de guitariste un peu touche-à-tout, qui lui vit à Londres, et Pyramide Vritra vit à Los Angeles. Ils se sont rencontrés un jour, ils ont décidé de faire un disque à distance. Ils ont fini par se retrouver pour finir l'enregistrement, mais c'est vraiment un disque à distance. Et c'est un disque, alors la première moitié du disque est extrêmement réussie, et la deuxième moitié, ils ont peut-être pas eu le temps de la finir. C'est un petit peu décevant, parce que du coup,
brouillon.
C'est comme s'il y avait des bribes de morceaux dans la deuxième moitié, où on attend que ça soit fini, comme s'il fallait sortir le disque, et voilà. Mais par contre, la première moitié est impériale. C'est une production rap, on n'a pas du tout l'habitude de ça, c'est-à-dire c'est pas du tout cogneur, c'est à contre-emploi complet de ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas du tout ni rapide ni cogneur, c'est très cotonneux, beaucoup de guitare, c'est extrêmement beau, avec un rap assez linéaire, assez feignant aussi, mais pour la bonne cause pour le coup. C'est un disque d'avion presque, on se le met dans le casque, et c'est vraiment un disque. Et surtout ce morceau là, Targets and Digits, qui est vraiment une belle réussite. Voilà, c'est des gens dont on n'attendait rien qui ont sorti, voilà, 5-6 morceaux vraiment remarquables. J'aimerais bien qu'ils finissent leur album maintenant.
Merci Sofian Fanon.
Merci.
À dans un mois.
rattle like a baby rattle. Reptilian sea snakes masked by foliage. I need to check the scenery. I'm on you like flesh and bone. Leave me alone. I'm on you like Cosby and women. In you like EA. Got game like a nigga work for EA. And brains like the rover and the stove. Come from pigment plighted. Comes from melanin ridden. But it glistening light. A serving near like Omarion. And watch you take it like I'm Chris Stokes. Light a fire in that shit smoke. My competition in this bitch ghost. Like how you do this like this. How an instant change your life like instant grits. With a hit you upside your head like instant lispers. Fuck up your grill and shit, I'm offset. Make sure that all my stones set. That'll keep all my hoes wet. Probably like, can you buy me this? Mind me like, are you here for me? Never go find one fake as me. Pulling up on you late as shit. I really had to put my kid to sleep, ain't that nigga?
Toutes les coordonnées des artistes défendus par Sofian Fanen sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde sur le site musique.rfi.fr. Il sort un tout nouvel EP Made in America. Gili Yalo est un Israélien d'origine éthiopienne. Il chante évidemment la situation de réfugiés, les frontières, la discrimination. Il y a beaucoup à dire et beaucoup à écouter. Gili Yalo est notre invité dans notre studio pour la session live.
Yeah.
C'était Guili Yello sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
Guili Yello avec le titre Sous les sous. Il était accompagné par Amir Sadot à la basse, Nadav Peled à la guitare et Jonathan Gittelman à la batterie. Le nouvel EP s'appelle Made in America. Ça vous donne déjà une petite idée de la destination de cet album et de son interprète. Guili Yello a fait ce disque avec des Américains. Il est originaire d'Éthiopie mais vit en Israël depuis une trentaine d'années. Alors Guili Yello, ce Made in America est chanté à la fois en amharique et en anglais. Chanter en amharique, c'est pas que c'est nouveau pour vous, mais c'est pas ce que vous faisiez au début. Pourquoi, en tant que noir et juif vivant en Israël, l'amharique a été une langue douloureuse pour vous à un moment donné de votre vie?
I immigrate from Ethiopia to Israel.
J'ai immigré d'Éthiopie en Israël.
And I think once I got to Israel, we had this kind of norma or something that.
Et en fait, quand je suis arrivé en Israël, on s'est rendu compte que c'était pas à la mode de parler en
amharique.
On vous appelait comment, les juifs éthiopiens qui arrivaient en Israël?
We have both names. We call ourselves Beta Israel.
On s'appelle nous-mêmes les Beta Israël. Et en fait, en éthiopien, on utilisait un mot qui n'était pas un mot très gentil, mais qui était falasha, qui veut dire les intrus, les étrangers.
Les métèques.
Les métèques.
Les immigrés, c'est ça. Pour correspondre à une société que l'on découvre et que l'on intègre, en général, ça passe effectivement par la langue. Donc, vous avez appris l'hébreu. Est-ce que vous êtes devenu ce qu'on appelle un bon Israélien? Et qu'est-ce que ça veut dire, quand on est adolescent, être un bon Israélien? Surtout quand on arrive d'Éthiopie et qu'on est noir.
En fait, j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé, j'étais plutôt jeune, donc c'était plus facile pour moi d'apprendre une langue. J'ai même appris l'anglais, ce qui m'a beaucoup aidé, grâce notamment à la télé et à l'école.
La musique est arrivée à quel moment dans votre vie?
Actually, when I was 4 years old, that my father's shoulders on the way to Israel from Sudan.
En fait, c'est quand j'avais 4 ans, quand je suis allé du Soudan, ce qui sont passés au Soudan entre l'Éthiopie et l'Israël. Quand je suis allé du Soudan en Israël, mon père en fait m'a fait écouter de la musique à ce moment-là.
Oui, quand vous avez quitté l'Éthiopie, vous étiez petit et c'était ce qu'on appelle un exode. Vous êtes passé par les camps au Soudan avant d'arriver en Éthiopie. Vous avez bénéficié de ce qu'on appelait à l'époque l'opération Moïse, ou c'était juste l'opération Moïse, c'était en 84 quand Israël a décidé de faire venir les Juifs du continent africain en Israël.
Oui, j'ai fait partie en fait de cette opération. J'étais très jeune et donc j'ai voyagé de l'Éthiopie jusqu'au Soudan puis jusqu'en Israël et on a été aidé par le Mossad et par l'Israël en fait pour rejoindre Tel Aviv.
Alors quand on est immigré, quand on arrive dans un pays, indépendamment de la langue qu'il faut apprendre, en général on la joue bas de plafond, c'est-à-dire qu'on rase un peu les murs, on essaye d'être un petit peu invisible. C'est pour ça qu'on vous appelait les nice guys.
Actually, it's not because we are foreigner. It's our culture. Ethiopia is a very cultural place, and with people who are talking very gently. They don't scream over there. Nobody screams.
En fait, c'est plutôt lié à notre culture éthiopienne. Tout le monde est très gentil. Personne ne crie en Éthiopie, et c'est vraiment pour ça qu'on se comportait plutôt comme ça que plutôt lié à notre place dans la société.
À quel moment vous vous réveillez politiquement? À quel moment vous vous dites, non mais attendez, là il y a un problème, je suis israélien, je suis noir, d'accord, je viens d'Éthiopie, d'accord, mais on ne peut pas non plus être traité comme des moins que rien, parce que vous étiez quand même des citoyens de seconde catégorie. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Let's begin from the start. At the beginning, I really wanted to be Israeli. I didn't want to be Ethiopian. I really wanted to be Israeli. And in some point I've come to realize.
En fait, au début, je voulais pas forcément être éthiopien, moi je voulais être israélien, mais je me suis rendu compte en fait que à cause du racisme et de ce que je vivais autour de moi, que j'avais besoin d'utiliser mes racines comme une fierté pour vraiment exister et être pleinement moi-même dans la société dans laquelle je vivais à cette époque.
Mais il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un événement spécifique.
What a specific event that
back in 2013 there was one.
En fait, en 2013, il y avait un immeuble en fait où les propriétaires ont décidé qu'ils ne loueraient plus leurs appartements à des personnes d'origine éthiopienne.
Et là, ça a déclenché sa conscience politique. Vous sortez un nouvel EP qui s'appelle Made in America, donc Made in America mais en version amharique, et là vous chantez et en amharique et en anglais. Comment s'est opéré ce lien entre les États-Unis, parce que c'est un label texan, enfin c'est un studio texan qui vous a enregistré? Est-ce qu'ils avaient déjà entendu de la musique éthiopienne, enfin de la musique éthiopienne, votre musique éthiopienne, parce que forcément, puisque vous avez bougé, elle a bougé aussi. Mais est-ce que le Texas avait pris connaissance du genre de musique que vous faites?
Actually, it was funny because they're from Texas and I'm like brought to them like Ethiopian music. They were a little bit confused. It took a while to understand like how to play it rhythmically wise and stuff. But at the end, we got over it and we tried to find the balance exactly from what they bring in from their side and what I bring in from my side.
En fait, ils étaient un peu confus au début quand on a ramené notre musique éthiopienne, évidemment, en tant que studio texan. De notre côté, on a mis un petit peu de temps à s'acclimater, notamment à jouer en rythme, en tout cas le rythme à l'américaine, ce qu'ils essaient de développer dans leur son. Au final, ce qu'on a réussi à faire avec cette EP, c'est trouver un équilibre entre les deux sons. Le son éthiopien qu'on a amené nous et puis le son américain qu'on a essayé d'intégrer dans cette musique.
This is where I'm home. This is what I need. I can never fight, you know, I tried, it's too strong. Through a mirror ball, I can see it all. Free to be myself and I can finally swim with them. Well, I thought you should know.
Gilly Yellow, le titre CD qu'on vient d'écouter, ça s'appelle This is where I'm home. Ben justement, la question que je vous pose, où est-ce que vous vous sentez à la maison?
Oh, I can't talk about it.
En fait, c'est quelque chose de très personnel, je ne peux pas en parler, mais ce n'est pas un lieu, c'est quelque chose qui est personnel à l'intérieur de moi.
Le premier titre que vous avez joué avec votre groupe, avec vos musiciens, s'appelait Sou Lesou, et vous parlez de migration.
I'm talking about borders, something that, you know, for more than hundreds of years, European came to Africa and took everything that Africa got to offer. And now, once Africa is starving and they want more, a little bit, everybody say, okay, we don't want you here. And
en fait,
I'm talking about this
ça parle
situation.
De, ça parle de frontières et d'immigration, évidemment. En fait, pendant des décennies et des siècles, les Européens et les pays étrangers sont venus, en fait, piller l'Afrique et profiter de l'Afrique. Aujourd'hui, quand des gens connaissent la famine et veulent, en fait, du coup, déménager et se retrouver dans une situation un peu plus confortable, on leur dit qu'on veut pas d'eux. Et c'est un peu ça le sujet du morceau.
Aujourd'hui, en Israël, il y a à peu près quoi, 120 000 juifs d'origine africaine noire, c'est à peu près ça le chiffre, ou c'est plus aujourd'hui?
Right now, around 130,000.
Oui, c'est ça, à peu près 130 000.
Et est-ce qu'il y a une, j'allais dire, un circuit ou une partie de Tel Aviv qu'on pourrait appeler Little Africa ou Little Ethiopia? Est-ce qu'il existe des endroits particuliers où les gens se sont réunis?
Less in Tel Aviv.
Pas dans Tel Aviv directement, parce que c'est une ville assez chère, mais quand tu vas à l'extérieur de Tel Aviv, t'as pas mal de ce qu'on peut appeler de petits ghettos, comme il y en a partout dans le monde, et malheureusement souvent avec des populations noires, ou des populations les plus défavorisées qui vivent là ensemble.
Il y a l'autre, tout à l'heure, vous parliez des Européens, des étrangers qui sont installés en Afrique, qui ont tout piqué, puis qui veulent pas vous voir arriver chez eux quelques siècles plus tard. L'Italie s'est installée en Éthiopie. Qu'est-ce qui vous reste de l'Italie dans votre vie de tous les jours, ou dans votre manière d'être?
I think that Italy didn't really infect Ethiopia. It didn't influence Ethiopia. Eritrea is like one of.
En fait, il y a pas vraiment de lien en Éthiopie elle-même, mais plutôt en Érythrée, là où l'Italie était vraiment installée, et les Érythréens aujourd'hui mangent vraiment des pâtes, savent vraiment ce que c'est un cappuccino. Enfin, ont vraiment plus cette culture italienne que ce qu'on a nous de manière générale en Éthiopie.
Maybe not this, but you know, they didn't really affect Ethiopia.
Oui, je pensais qu'ils avaient un trip avec les cheveux et toujours s'habiller avec de beaux costards, mais ça, c'était vraiment. Enfin bref, peu importe. Vous savez que en Europe et sur le continent américain, la musique éthiopienne, mais celle qu'on appelle enfin la musique de l'âge d'or, la musique éthiopienne dans les années 70-80, est connue maintenant grâce à un label français, Bouddha Music, qui a lancé une collection il y a 20 ans. C'est un Français, Francis Falsetto, qui avait un faible pour l'Éthiopie, qui a fait ressortir tous ses morceaux. Enfin, il y a 25 ou 30 volumes aujourd'hui. Si bien qu'en 2005, le cinéaste américain Jim Jarmusch a sorti un film qui s'appelait Broken Flowers avec Bill Murray. Et dans ce film, il y avait un morceau éthiopien du musique musicien Mulatu Astatke qui a fait donc le tour du monde. Donc la musique que vous faites, même si la vôtre est très 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 métissée, est connue dans le monde entier. Est-ce que vous savez qu'on a ce truc avec l'Éthiopie maintenant en France, en Europe, qu'en France il y a des groupes français qui chantent en amharique, par exemple?
Yes, of course. You know, first time I saw.
Oui, la première fois que j'ai vu Mulatu Astatke à Tel Aviv, j'ai vraiment été choqué. Ça m'a complètement impressionné. Il jouait de la musique uniquement instrumentale, mais en fait, il était déjà tellement haut. Ça nous a vraiment porté très haut tous dans l'assemblée.
Et vous connaissez vos classiques du type Mahmoud Ahmed, les grands crooners des années 70-80, Addis Abeba?
Actually, they are not my friend because you know they are you know legends. But I got a chance to perform with them few times. So we sit down in the backstage and do what music musicians do, you know, laughing, drinking something, you know, talking.
Je les connais un petit peu, mais ce sont pas vraiment des amis très proches. Mais j'ai eu l'occasion et la chance de les côtoyer, notamment dans des concerts et puis dans les loges où on fait ce qu'on fait tous les musiciens, c'est-à-dire boire, rigoler et s'amuser.
Alors, ce qui est étonnant dans votre carrière, Guili Yalo, c'est que j'ai appris que vous aviez été choriste pour Enrico Macias. C'est qu'à l'âge de 10 ans, vous avez fait l'Olympia à Paris.
I was 10 years old in Olympia. It's so funny because
c'est marrant parce qu'à chaque fois, j'ai de la chance et j'ai un lien particulier avec Paris. Je me retrouve toujours dans des projets où Paris est impliqué, notamment sur celui dont vous venez de parler. Et si les gens, quand ils me demandent où est-ce que je vivrais, si je vivais ailleurs qu'à Tel Aviv, je dis à Paris, évidemment.
Mais dites donc, le Guili Yalo qui regardait MTV, qui regardait Tupac Shakur et Snoop Dogg, s'est mis en retrait pour donner place à un autre Guili Yalo qui regarde le monde différemment, qui a d'autres valeurs.
Wow, it was a long time ago. But yes, once the first album of Snoop Dogg came out, it was Doggy Style, and I was.
En fait, quand le premier album de Snoop Dogg est sorti, Doggy Style, c'est vraiment un son qui m'a parlé tout de suite. La production était vraiment quelque chose qui m'a pris au trip, autant que la rage qu'avait Tupac Shakur.
But when I grew up, and you know, right now when I'm listening back there, maybe the music is good, but I don't like the message.
En fait, aujourd'hui, je me rends compte que la musique reste toujours très bonne, mais le message, j'ai du mal à l'accepter. Le message est quand même très dur et très très violent, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup moins en grandissant aujourd'hui.
Quel est le message que vous voulez transmettre, Guili Yalo?
Ah, wow, that's a really hard question. I have so many messages, but let's start with me. Like, I want to tell the people just, you know, accept the present and not forget the past.
C'est une question très dure à laquelle je dois répondre là, mais je pense que ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est qu'il faut qu'ils acceptent le présent tel qu'il est aujourd'hui et qu'ils oublient un peu le passé.
Especially, I'm talking about, you know, world changes. The world is changing. You know, nobody can do nothing to stop it. So let's go with the world. It's changing, and I'm happy that it's changing for good. For a lot of people that didn't get opportunities to do things in their life, and they have opportunities because.
Je pense surtout en fait au changement qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. Au lieu d'essayer de lutter contre, je pense qu'il faut essayer de les accepter et de trouver sa place dans ce nouveau monde avec ces changements qui sont en cours. C'est ce que j'essaye un peu de transmettre à travers ma musique.
I think it will take us to a better future.
Dominique Trémoux y a assuré la traduction de Guili Yalo qu'on va retrouver avec le titre Selam et ses musiciens, Mir Sadot à la basse, Nadav Peled à la guitare et Jonathan Gittelman à la batterie. J'ai bien prononcé les noms, Guili, ça va?
What's the spelling right?
The spelling right, but we forgot two people. On the sound, Yaron Sarel and my manager over here, Dan Bassman.
C'est le minimum. Et moi, j'en oublie aussi. Il y avait Taguim Fatraoré à la réalisation, Fabien Mugneret et Benoît Le Tyran de l'autre côté de l'aquarium. Merci infiniment. Bonne soirée. We'll be right back.
ask a fine.